Chapitre 53. Le cercle de flèches noires entourait un puits de ténèbres béant, comme la gueule d'un serpent géant enfoui sous la terre, un abîme ouvert sur les profondeurs glaciales de l'éternité. Via cet ignoble gouffre, la magie sauvage du buveur de vie absorbait l'énergie du monde. La créature qui se nommait jadis Roland avait émergé de ce cloaque. Ratatiné comme une très vieille femme et au moins aussi frêle, le sorcier était un mélange monstrueux de pouvoir illimité et de décrépitude. Un humain, ce fantôme haineux, ce qu'il en restait en tout cas, et ce n'était pas beau à voir. Dans une explosion d'éclairs, il vint prendre place derrière ses troupes répugnantes. Le vent hurla comme si la présence du monstre lui arrachait des cris de terreur. Roland portait ce qui avait été un jour la longue tunique d'un érudit de surplomb du monde. Mais le tissu avait bizarrement poussé, lui faisant comme un suaire dont la longue traîne pendait dans le puits d'obscurité. Des ondes noires convergeaient vers son corps, comme si sa magie absorbait la lumière du jour pour l'expédier au plus profond du gouffre de néant. À croire qu'une force se terrait au fond de cet abîme, tirant les ficelles de la marionnette qu'il était devenu. Quand le sorcier parla, ses mots semblèrent aspirés par le néant dès qu'il les prononçait, et avec eux Nietzsche sentit disparaître un peu plus de son énergie vitale.
« Peu de gens viennent me voir, » dit Roland.
Il se redressa de sa dérisoire hauteur, son suaire ondulant dans le vortex d'énergie destructrice qui l'entourait. Sous le tissu de sa robe, dans la poche secrète, Nietzsche sentit la coque dure du gland magique. Se souvenant d'autres adversaires terrifiants qu'elle avait affrontés et vaincus, elle avança.
« Je viens pour te détruire. »
« Oui, je sais. D'autres ont essayé avant toi. »
Nietzsche n'entendit aucun défi dans la voix du sorcier. Un étrange désespoir, peut-être. Les yeux rouges, les joues creuses et le teint grisâtre, Roland n'avait plus en guise de cou qu'un fuseau de chair tenu par des muscles tendus à craquer. À travers les trous de sa tunique en lambeaux, Nietzsche vit que son torse n'était plus qu'un amas de tumeurs bourgeonnantes. De monstrueuses excroissances qui exigeaient toujours plus de vie après avoir dévoré la sienne. Florissante, la maladie qui aurait dû le tuer dominait entièrement le sorcier trop lâche pour avoir accepté la mort. Les jambes tordues, le dos bossu, le buveur de vie n'était plus que le porte-flambeau de la mort, son serviteur rien moins que zélé, mais incapable de se libérer de son emprise.
« Pitié !»
dit-il d'une voix douce qui sonna pourtant comme un rugissement.
« J'ai faim, j'ai soif, je suis vorace. »
Les hommes poussières ne bougeaient plus un cil. Son épée tenue à deux mains, Bannon ne parvenait pas à cacher ses tremblements. Mra s'accroupit et ne bougea plus. Le buveur de vie leva ses mains aux doigts squelettiques. Quelque quantité d'énergie qu'il vola au monde, ce n'était jamais assez pour lui.
« Je n'ai pas voulu tout ça, » dit-il, « et je n'en veux plus. »
Il inspira à fond et des éclairs en réponse vinrent frapper les flèches noires.
« Mais je ne peux rien arrêter. »
Alors que sa vie s'écoulait d'elle, aspirée par le sorcier qui finirait par la tuer, Nietzsche avança sur le sol éventré.
« Dans ce cas, je le ferai pour toi. »
Impitoyable, la magicienne le pousserait dans son puits de ténèbres. Le gland était sans doute l'arme la plus puissante qu'elle ait jamais maniée. Mais toute vitalité déserta son corps et ses pensées se troublèrent. Une lueur passa dans les yeux du sorcier. Sur son torse, les tumeurs se tortillèrent comme des vipères prêtes à mordre.
« Non, je dois survivre, il le faut. »
Telle une armée de pantins, les hommes poussières se mirent en mouvement, plus d'une centaine saisis d'une folie meurtrière. Nietzsche se força à faire trois pas en avant. Le buveur de vie ne broncha pas.
Il sembla grossir, boursouflé d'énergie destructrice comme une pustule en forme d'homme prête à éclater.
Bannon vint se camper entre Nietzsche et les tueurs momifiés.
« Je vais te dégager le chemin !» Le jeune homme coupa un bras desséché, puis décapita un autre mort-vivant. Claquant encore des dents, le crâne rebondit sur la roche noire. De sa main libre, Bannon repoussa un autre agresseur, l'envoyant bouler sur deux de ses congénères. Même s'il avait désormais l'air d'un vieillard, le disciple de Nathan se mit à tailler ses adversaires en pièces avec une énergie juvénile. « Accomplis ta mission, magicienne! Tue le buveur de vie !» À chaque seconde, Nietzsche se sentait plus écrasé par le poids de l'âge. À Tanimura, dans un très lointain passé, elle avait vu une vieille dame qui traversait un marché à la vitesse d'un escargot, comme si chacun de ses pas devait être suivi d'une longue pause. En ce jour, Nietzsche comprenait la pauvre femme. Ses os lui semblaient fragiles comme s'ils étaient en verre, ses articulations la torturaient et la peau de ses bras, sèche comme du vieux parchemin, menaçait à tout instant de se fendre. Mara s'était jetée dans la bataille. Sans état d'âme, elle déchiquetait les pantins de Roland. Mais les scorpions géants avançaient toujours et ils entreraient bientôt au contact avec la garde rapprochée de Nietzsche. Rapide comme l'éclair, la panthère évita le dard qui s'abattait sur elle, puis elle sauta sur un rocher, attirant plusieurs scorpions à sa poursuite. Alors qu'un dard allait faire mouche sur Mra, Bannon décrivit un arc de cercle avec sa lame et coupa l'appendice mortel. Puis il tailla en pièces le scorpion géant et poussa son cadavre sur deux hommes poussières qui basculèrent en arrière. Bondissant de rocher en rocher, Mara se jeta sur les spectres momifiés qui tentaient de barrer le chemin à Nietzsche. Agitant les mains, le sorcier guidait ses sbires à distance. Docile, d'autres morts-vivants émergèrent à la surface. Pour chaque créature tuée par Bannon ou Mara, deux nouvelles se dressaient devant les défenseurs de Nietzsche. La magicienne comprit qu'elle n'aurait pas beaucoup de temps pour agir. Les yeux vides du buveur de vie se rivèrent dans les siens.
« Pitié !» souffla-t-il. « Je sais que j'ai fait beaucoup de mal, mais je ne peux pas arrêter. Mon seul but, c'était de vivre et de vaincre la maladie qui me rongeait de l'intérieur. Cette malédiction, jamais je ne l'ai voulu. »
Il leva les mains et serra les poings. Alors que le corps du sorcier se gonflait d'énergie obscure, Nietzsche eut le sentiment d'être au bout du rouleau. Comme si son âge la rattrapait, elle faillit tomber à genoux.
« Je ne sais pas comment enrayer le processus, »
dit-elle d'une voix chevrotante.
« Si tu as trouvé en toi le pouvoir de provoquer un tel désastre, tu devrais être en mesure de fermer le gouffre qui aspire le monde vers le néant. Cherche au plus profond de ton âme. »
« J'ai dévoré mon âme, il y a longtemps, »
gémit le buveur de vie.
« Tout ce qui me reste, c'est la voracité. »
Quand le sorcier recommença à bouger les mains, Nietzsche comprit que la magie le possédait. À travers lui, le sortilège qu'il avait invoqué s'était fait chair. Des nouveaux hommes poussières accouraient et les scorpions aussi recevaient des renforts. Vieillard aux cheveux blancs clairsemés, Bannon se battait pourtant toujours avec une indomptable énergie. Mara faisait elle aussi des dégâts, et les runes imprimées offertes sur sa fourrure semblaient la protéger de la voracité du buveur de vie. Nietzsche baissa les yeux sur ses mains tavelées. Dire que sa peau était blanche et lisse quelques heures plus tôt. Chaque pas était désormais un miracle et une torture. Dans son dos, des morts-vivants encerclaient Bannon, mais il continuait à les tailler en pièces. Mara tenta d'aller le soutenir, mais elle dut affronter un nouveau groupe de scorpions. Nietzsche fit un dernier pas, puis glissa une main dans la poche secrète de sa robe. Le buveur de vie continuant à absorber sa magie, elle n'aurait pas pu lancer du feu de sorcier, voire recourir à un de ses sorts de base, parce que Roland, sans y penser, l'aurait assimilé avant d'en finir avec elle. Nietzsche sortit le gland, qui pulsait frénétiquement, et cria
« Tu vas arrêter !»
De plus en plus bouffi, le buveur de vie regarda ses créatures un peu partout autour de lui.
« Oui, il faut que ça s'arrête !»
répondit-il à la grande surprise de Nietzsche. D'instinct, il vola quand même encore plus d'énergie au monde, allant jusqu'à s'en prendre à ses propres créatures. 10 morts-vivants s'écroulèrent, puis se décomposèrent. Les scorpions tombèrent aussi et se désintégrèrent. Le buveur de vie hurla, se débattit dans le vide et leva les mains comme s'il venait, avec sa dernière invocation, d'attiser un incendie magique qui faisait désormais rage au cœur de sa tanière dans les abysses du néant.
« Sauve-moi »
implora-t-il. Nietzsche profita de ces quelques secondes de répit pour se ressaisir.
« Non, personne ne peut te sauver, buveur de vie. »«
Je suis Roland, »
gémit le sorcier. Nietzsche tendit la main, le dernier gland du premier arbre dans sa paume, et invoqua son pouvoir pour concentrer l'air autour d'elle, un sort qui, dans d'autres circonstances, aurait pu paraître assez vain, car elle ne chercha pas à générer un point ou une muraille, mais utilisa un simple souffle pour propulser le gland vers l'avant. Comme un carreau d'arbalète, le projectile magique fila vers sa cible. Le buveur de vie cria, laissant le gland s'engouffrer dans sa bouche puis descendre le long de sa gorge. Protégé par la coque, l'ultime graine du premier arbre contenait toute l'énergie vitale de l'antique forêt primitive. À l'intérieur du sorcier, la coque se craquela et libéra une énorme quantité de vie comme lorsque l'eau d'un barrage se déverse dans un lac. Cette énergie explosa en un feu d'artifice de vitalité, de renouveau et de régénérescence. Roland poussa un cri qui sembla déchirer la balafre. Ce sorcier, vidé de toute substance, n'était qu'un puits de néant, un appétit insatiable qui exigeait sans cesse plus de vie et de puissance. La graine du premier arbre, justement, contenait un condensé de vie et de puissance. Comme un homme qui meurt de soif dans le désert et se retrouve soudain emporté par une crue, Roland s'étrangla avec la manne qu'il se languissait pourtant d'absorber. Le sort qui l'animait tenta d'assimiler l'apport de vie du gland magique, mais c'était hors de sa portée. Un cyclone se déchaîna dans l'arène noire, balayant le sol et expédiant dans toutes les directions des éclats d'obsidienne. Épuisé, Nietzsche s'écroula à quelques pas du puits infernal du buveur de vie. Toujours déchiré de l'intérieur, Roland criait de plus en plus fort. Le gland qui germait dans son corps brûlait désormais comme une nova. Alors que le buveur de vie invoquait des ombres voraces pour combattre cette symphonie de vitalité, les derniers hommes poussières se décomposèrent sur pied. Les ultimes scorpions crevèrent aussi, leurs dards tétanisés et leurs pattes segmentées repliées contre leur carapace. Bannon se dégagea des cadavres et vola au secours de Nietzsche. Enfin, il aurait voulu voler. Comme un vieillard arrivé à sa dernière heure, il se traînait lamentablement. Mara aussi tentait de rejoindre la magicienne, mais elle bougeait au ralenti. Vidé de sa vitalité et rongé par l'âge, Nietzsche sentit pourtant le contact mental de sa sœur Féline. Le sol trembla de plus en plus fort. Arrachés aux flèches noires, de gros blocs de pierre tombèrent dans la tanière du buveur de vie, puis les tours naturelles elles-mêmes s'écroulèrent comme des arbres abattus par la foudre. Peu à peu, la tanière s'emplissait de débris. Au bord du gouffre, le combat continuait. La graine magique acharnée a créé plus de vie que Roland pouvait en absorber. Dans un premier temps, la lueur qui jaillissait du gland faiblit, mais les ombres qui la combattaient pâlirent aussi comme un brouillard dissipé par les rayons matinaux du soleil. Puis Roland, le buveur de vie, se désintégra, son corps réduit en une infinité de particules calcinées. La mort et la désolation qu'il avait créée retournèrent au néant. Comme pour saluer ce triomphe, la graine brilla une dernière fois, plus fort qu'un millier de soleils. Nietzsche se releva et recula en titubant. La chaleur de la vie, comme une brise d'été, la régénérait seconde après seconde. La vie, l'énergie, la renaissance. Ses articulations, de nouveau souples, cessèrent de la torturer. La gorge moins serrée, elle inspira à fond et sentit dans l'air une douce fraîcheur qu'elle n'avait plus captée depuis son premier pas dans la balafre. Levant une main, elle vit que sa peau n'était plus celle d'une vieille femme à l'agonie. Bannon se redressa, toussa, puis s'ébroua. Quand il se tourna vers elle, Nietzsche constata qu'il était redevenu un jeune gaillard aux joues constellées de taches de rousseur. La magicienne tourna la tête vers l'endroit où Roland avait livré et perdu son dernier combat. Au cœur de la balafre, une petite pousse verte se dressait fièrement. L'ultime trace du pouvoir du premier arbre. Une unique pousse porteuse de tout l'avenir du monde.